22 tout le monde présente
relecture.
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 Relecture en réécoute. Antenne Kiasma.
Alors je vais d'abord commencer par les remerciements. Merci à tous de votre présence déjà. Je voudrais remercier Olivier Marbeuf qui dirige le centre l'espace Kiasma. Je voudrais remercier également Sébastien Zegel qui dirige le pôle littérature de Kiasma, Katia qui est à la technique, Amandine qui est cheville ouvrière aussi dans le projet, et puis mes deux complices de ce soir qui vont lire un extrait, chacun un court extrait de deux textes, Olivier Steiner et Manuela Morgan. Alors l'idée de ce moment de partage avec vous, c'est que je vais me lancer dans la lecture d'un texte qui s'augmente un peu tous les jours, un texte un peu théorique, bien que je ne sois pas poéticien ou théoricien, qui essaye de dire ce que je fais. Je l'ai placé sous le ciel de Francis Ponge, qui dit « Nous ne sommes pas seuls ici, nous sommes loin d'être entre nous. » Nous ne sommes pas seuls ici, nous sommes loin d'être entre nous. Pendant que je vais me lancer dans la lecture de ce texte, qui est une sorte d'essai d'investigation poétique, je voudrais inviter les gens, mes convives, qui sont autour de ces tables, de jouer avec moi, de jouer de manière pas si ludique que ça, puisqu'il s'agit de jouer avec la guerre qui sévit en ce moment en Syrie. Alors, sur chaque table sont disposées des images, et à chaque image est associée une enveloppe à l'intérieur de laquelle vous trouverez des mots ou des expressions ou des séries de mots. Et j'invite les personnes qui sont donc attablées avec une image et une enveloppe associée à cette image de procéder à des agencements de textes. Voilà, essayer de trafiquer à partir de ces différents mots des séquences de libre choix, comme bon vous semble, pendant que je ferai cette lecture. Et je m'interromperai, il y a 12 images, donc 12 groupes de mots associés, hein, chaque image a son enveloppe. Je vais m'interrompre 12 fois, et puis je demanderai à qui voudra bien se lancer de lire la suite de mots qu'il a manipulé dans l'ordre qu'il a agencé, en appelant la photo, et on pourra s'arrêter une seconde et la fixer sur les écrans. Je compte sur vous. On va donc commencer par un extrait de Guantanamo par Olivier Steiner.
On demande si on s'est rendu du Kazakhstan à Kaboul, en Afghanistan, en septembre 2000. On répond qu'on a oublié, que ça fait 2 ans et demi, qu'on ne se souvient pas du mois. On demande si on est passé par Karachi, Islamabad et Peshawar au Pakistan, et par Kandahar en Afghanistan. On répond que c'est ça, que c'est bien ça. On demande si on a des liens familiaux avec des terroristes notoires au Pakistan. On répond en demandant de préciser quel genre de lien. On reformule la question. On demande si on a des liens de parenté avec des terroristes au Pakistan. On répond qu'on n'a pas de famille au Pakistan. Comment pourrait-on ? On dit qu'on a pour parent le membre d'un groupe terroriste responsable d'attaques en Ouzbékistan. On répond que dans la famille, personne n'a aucun lien avec quelque groupe terroriste que ce soit en Ouzbékistan. On dit qu'on a vécu dans un logement fourni par les talibans et travaillé comme cuisinier dans un de leurs camps. On répond qu'on l'a déjà mentionné lors d'un interrogatoire précédent, qu'on n'est pas cuisinier, qu'on s'occupait d'un potager, qu'on ne sait pas cuisiner, que c'est la mère depuis l'enfance qui préparait à manger pour la famille entière. On dit qu'on a été capturé en décembre 2001 à Kaboul. On répond que oui, c'était en 2001, mais on ne se souvient pas du mois, que c'était le milieu du Ramadan, en 2001.
Extrait de Gaza, d'ici là, séquence 12. C'est un village situé au sud-est de Gaza, dans une zone agricole, à environ 1,5 km de la frontière, séparant la bande de Gaza d'Israël, la ligne verte. Le 8e jour des opérations, une formation de chars est entrée massivement dans le village. Le 9e jour des opérations, vers 6h du matin, un tir d'obus a touché la maison de l'homme où, en dehors de lui-même, de sa femme et de ses enfants, se trouvaient la femme et les enfants de son frère, sa sœur, âgée de 37 ans, et sa mère, âgée de 65 ans, qui était venue s'y réfugier. Entre 9 et 10 heures, la famille de l'homme a décidé de quitter les lieux et de gagner la maison d'un voisin. Vers 11 heures, l'homme a reçu un appel téléphonique de son frère, l'informant que les forces armées, dans un message diffusé par les deux stations de radio locales, avait engagé les habitants de la zone frontalière à quitter leur maison pour se réfugier en lieu sûr. Après avoir taillé à la hâte des drapeaux blancs qu'arborait la sœur de l'homme et l'un des fils de son voisin de 25 ans qui portait son propre fils, un enfant de 2 ans, 26 membres des deux familles, des enfants, pour plus de la moitié, ont décidé de partir. Le groupe s'est engagé à pied sur la route en direction de l'ouest. Il se déplaçait très lentement, parcourant 200 mètres environ en 10 minutes. Alors qu'il se trouvait à proximité d'une formation de chars, le groupe a essuyé des tirs déclenchés sans sommation. La sœur et la mère de l'homme ont été touchées. La sœur de l'homme a été tuée sur le coup et sa mère, essayant de fuir, s'est effondrée après avoir parcouru quelques mètres. Les autres membres du groupe se sont repliés tant bien que mal en direction de la maison de la famille voisine, se réfugiant d'abord derrière un apprenti qui la jouxte, puis dans la maison proprement dite. On a alors demandé le croissant rouge pour demander qu'on évacue les corps de la sœur et de la mère de l'homme. La société du croissant rouge s'est mise en rapport avec le Comité international de la Croix-Rouge. Mais les deux organisations se sont vues refuser l'autorisation d'envoyer des secours, arguant que le village faisait désormais partie d'une zone militaire. Les deux familles ont passé le reste de la journée ainsi que la nuit suivante terrées sous l'escalier de la maison des voisins, pendant que les forces armées continuaient d'y diriger des tirs d'artillerie lourde et de mitrailleuse. Le lendemain, en empruntant un itinéraire détourné, les deux familles ont finalement pu gagner Gaza à pied. Lorsqu'il a pu revenir au village, dans la soirée du 22e jour après la cessation des opérations, l'homme a découvert le corps de sa sœur et le corps de sa mère sous un amoncellement de décombres.
Je voudrais présenter les résultats d'une expérience d'écriture dont le processus fait agir la page comme une table. Sur ce plateau aux assises multiples sont réalisées une série d'opérations qui fonctionnent comme autant de notions dynamiques, connectables les unes avec les autres, et composées comme un ensemble de divers anneaux, des anneaux brisés, qu'on utiliserait comme pour la pêche au leurre. Chacun bifurque dans l'autre, piétine, avance, rétrograde, rebrousse chemin, afin de cerner dans quel cas il y a l'événement, écriture et politique, et ses convergences imprévisibles dans des zones poétiques dynamiques et inattendues. Je les rassemble à l'intérieur d'un album d'esquisses sous la forme d'un traité, face au monde et au devant de la langue. Les opérations en question sont les suivantes. Documenter, dupliquer, translater, objectiver, neutraliser, monter, désubjectiver, dépersonnaliser, coérer, désexprimer, chercher, trouver, ouvrir. Je nomadise le long de la ligne de jonction entre la poésie et le politique qui voudrait faire tendre le langage vers une limite à partir de laquelle dériver par des détours intensifs afin de révéler la vie actuelle dans les choses. Je poursuis une voie, je m'y tiens. On expérimente, on articule, on mesure les tensions qui se créent au sein de ce qui arrive dans le monde, on rend des hommages à d'autres écrivains. C'est une table de dissection en acte. Cette démarche n'est pas sans se fier à la fameuse recommandation de l'écrivain américain Charles Olson dans une lettre adressée à Ed Dorn en 1955, dans laquelle il conseillait aux jeunes poètes de s'en tenir à un site spécifique et de faire de cette matière première un langage. Je cite « Et s'ancrer à cet endroit représente toute une vie d'assiduité. Le mieux, c'est de creuser une seule chose, un seul endroit, un seul homme jusqu'à ce que toi, tu en saches plus sur la question que n'importe qui d'autre. Épuise le sujet, sature-le à fond, et là, tu sais tout le reste très vite. Un seul truc, jusqu'à saturation, ça peut prendre 14 ans. Et hop, c'est gagné pour toujours. » Aujourd'hui, je voudrais essayer de définir avec vous cet espace blanc d'où je parle et qui prend forme lentement dans un discours que je mets en œuvre au cœur de mon traitement poétique du matériau documentaire. Je ne procède pas par déduction linéaire, mais plutôt par cercle concentrique et je circule du dehors vers les plus intérieurs. Je ne me considère jamais comme une conscience parlante, ni comme un auteur de formulation, mais je tente d'adopter, de passer par des positions qui peuvent être remplies sous certaines conditions par des individus dont la parole a été anéantie. Je cherche avec vous à savoir, à travers de tels agencements mobiles, comment ça fonctionne. Un propos qui voudrait établir une possibilité et que je sens si précaire et si incertaine encore quant à moi. Quel nouveau rapport avons-nous avec la vie, avec le langage, avec le mal qu'on fait à l'autre aujourd'hui? Je voudrais faire un premier tour de table. Est-ce que quelqu'un peut se lancer au hasard?
Table numéro 11. Un Syrien photographié, torturé, puis relâché par les forces du régime près d'Alep le 23 août 2012. Photo James Lower Duggan, AFP. Aimer la liberté, un véritable abattoir. Arrachage des ongles, authenticité. Nom de code, trouble respiratoire. Taillé dans le granit, électrocuté. Assassinat à grande échelle, fiabilité. Roi de la mort, César.
Alors je poursuis.
Toujours sur la même photo.
Ah,
chair à vif, coup de fouet, geôle syrienne, battu. Passage à tabac, mutilé. Industrialisation de la torture.
Merci. Première opération, documentée. Déjà, on ne peut pas s'empêcher de penser que undocumented veut dire sans papier en langue américaine. Mais allons tout de suite au fait. Chacun de mes livres est une volonté de découper un objet poétique et sur ma table d'opération sont rassemblés des documents poétiques. Guantanamo a été composé à partir de la transcription d'interrogatoires menés auprès de prisonniers du centre de détention américain, déclassifié en 2009 par le département de la Défense au nom du Freedom of Information Act. Gaza, d'ici là, est fondée sur le rapport de la mission d'établissement des faits de l'Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza, dit rapport Goldstone, lequel se concentre sur les événements ayant eu lieu lors des interventions militaires menées par l'armée israélienne à Gaza entre le 27 décembre 2008 et le 19 janvier 2009, sous le nom d'opération Plomb durci. État de fait, puis dans une série d'articles publiés dans la presse française et anglo-saxonne pendant toute la durée du conflit survenu en Libye en 2011. Île de Jean-Charles, qui est un livre à paraître, construit à partir d'entretiens que j'ai réalisés auprès des habitants de cette île du sud de la Louisiane, traite des conditions de survie d'une communauté d'Indiens en sursis. Arpenter ce chemin d'écriture consiste d'abord, dans un état d'urgence devant l'histoire catastrophique, à lire et relire des archives pour les fracturer, les désarticuler et en saisir tous les arcanes. Il s'agit, comme l'écrivait Adamoff à partir d'Antonin Artaud, de retrouver l'ossature effrayante des choses. Je m'intéresse d'abord aux témoignages qui sont recueillis, en excluant les analyses et les conclusions qui y sont délivrées, lesquelles peuvent être sujettes à caution, contestation, voire rétractation, comme cela a été le cas avec le juge Richard Goldstone. Je m'appuie uniquement sur des actions et des faits tels que rapportés par les protagonistes dans les artefacts d'origine. Arracher les documents à leur évidence de libérer les problèmes qu'ils tendent et reconnaître qu'ils ne sont pas seulement le lieu tranquille à partir duquel on peut poser des questions, mais qu'ils posent par eux-mêmes toute une panoplie de problèmes publics. Pour chaque traitement d'un document, il s'agit d'une opération inédite, inédite en tout cas pour moi, c'est-à-dire un processus en mouvement visant, par réappréciation des données de l'actualité du monde, à obtenir un résultat nouveau et inconnu à partir d'une série d'outils déjà existants. Ce mode opératoire est ainsi constitué de matières textuelles expurgées de toute intention d'énonciation et redéployées, jetées à nouveau ensemble au moyen de puissances lexicales, syntaxiques et grammaticales appropriées afin de révéler la vie dans les choses et donner naissance à un livre. Par ces actes de remodélisation, je procède comme un copiste ou comme un assembleur d'assertions et de fragments dispersés. Serrer les dents, ne pas crier, trouver la chose vive. Dans une poésie littérale où l'œuvre dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit, sans tenir à ce qui non apparaîtrait comme un non-dit ou un surdit, mais à la seule inscription de ce qui est dit. Le sens qui alors se dégage du texte n'est aucunement celui d'un original exhumé, mais est engendré au contraire par l'expérience de la lecture seule. Il y a un moment, il y a un temps réel où on croit que quelque chose est vrai et on construit un équilibre à partir de cet instant de conviction. L'écrivain, l'artiste, en tant qu'il porte ses réflexions et ses recherches sur la condition humaine, est d'autant plus nécessaire que la cause qu'il entend servir est celle de la vérité, celle de la réalité factuelle. Il est hanté par la fragilité des faits qui ne peuvent compter que sur ceux qui les raconteront et qui les lègueront par fidélité à ce qui est, selon la formule d'Hérodote, dire ce qui est tel qu'il est. Considérer l'événement, passer au crible du monde cet événement, recueillir sa manifestation dans l'histoire contemporaine, son conditionnement, son pourrissement, et s'installer en lui l'événement, le traiter comme étant formulé par quelqu'un né dans des circonstances particulières, rendu compte par des représentations singulières, adressé à quelqu'un d'autre, à un lecteur, à un peuple de lecteurs. Vœux de pauvreté, profil bas, action lofi, une infrabasse qui fore des trous dans la langue, selon le vœu de Beckett. En traquant précautionneusement, on finit par déceler quelque chose. Comprendre est une faculté qui ne finit pas et qui ne vise au fond aucune découverte. Elle consiste à redisposer ce qui est présent sous les yeux, désarmer, puis réarmer le regard. Elle intervient par adjonction et intensification progressive d'une manière tellement pertinente que les choses deviennent de plus en plus effectives sans avoir à les divulguer par le récit de soi à l'intérieur. Priorité est donnée à la langue, sa réorganisation logique, prise comme substance du poème et de son agencement, et non plus comme un simple instrument d'expression et pas orienté sur des impressions personnelles et privées. Et cette approche ne se déprend jamais d'une réflexion sur ce que l'on est en train de faire, sur la poésie elle-même, sur les règles de sa formation, par la conduite d'une enquête centrée sur son propre fonctionnement. Une poésie qui se retourne, se déplie, s'analyse et qui, du côté de l'inachèvement, se prend elle-même pour objet, tout en restant appliquée à son sujet. C'est Foucault qui remarque qu'à partir du XIXe siècle, la littérature se démarie de plus en plus du discours d'idées pour s'enfermer dans ce qu'il appelle une intransitivité radicale. Elle n'a plus alors, ajoute-t-il, qu'à se recourber dans un perpétuel retour sur soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour contenu que de dire sa propre forme. La littérature tendra ainsi à être repliée sur l'énigme de sa naissance et tout entière référée à l'acte pur d'écrire. Ainsi, une suite de dépêches d'agence, de comptes rendus d'incidents peuvent faire poésie. La poésie est enfouie dans la langue, dit Emmanuel Occart. L'étendue du document devient essentiellement surface d'inscription, d'où extraire des visibilités. N'interpréter jamais, expérimenter, selon le mot de Gilles Deleuze. Documenter à partir de l'archive ne consiste pas par rapport à un événement spécifique à déceler un autre discours mieux caché. Ce n'est pas une discipline interprétative non plus. Elle n'essaye pas de découvrir derrière elle ou au-dessous de leur surface apparente un élément dissimulé, un sens secret qui se tairait en elle ou se ferait jour au travers elle sans le dire. Et pourtant, l'énoncé n'est point immédiatement visible. Il ne se donne pas d'une façon aussi évidente. L'énoncé est à la fois non visible et non caché. Ce processus d'expérimentation et non d'explicitation ne peut jamais porter que sur des choses dites, sur des phrases qui ont été réellement prononcées ou écrites, sur des éléments signifiants qui ont été tracés ou articulés, et plus précisément sur cette distinction qui les fait exister, les offre au regard, à la lecture, à une réactivation événementielle, à mille usages ou transformations possibles, parmi d'autres choses, mais pas comme les autres choses. Mon problème, c'est de définir l'événement rapporté dans sa spécificité, de montrer en quoi le jeu des règles de langue qu'il met en œuvre est irréductible à tout autre, de le suivre tout au long de ses apparitions extérieures et pour mieux les souligner. Documenter en cela, ce n'est rien d'autre qu'une réécriture, c'est-à-dire dans la forme maintenue de l'extériorité, une transformation chargée de ce qui a déjà été écrit. Ce n'est pas le retour au confidentiel même de l'origine, c'est la description systématique d'un discours objet. Il s'agit alors de dégager délicatement, puis de faire un moulage. Système dynamique de prise de forme entre moule et matériaux, processus et produit, ce que Simon Donne appelle « modulation ». Branché sur des sources diverses, je gomme les noms propres, calibre la ponctuation, la scansion, organise la coupe dans des phrases exemptes de toute métaphore et du cadre rhétorique du commentaire ou même de l'analyse. Je monte, je nettoie, je combine tel un jeu de construction qui aide à véhiculer le sens, qui montre la chose littérale et donne à voir ce que l'homme est capable de faire à l'homme, ce que les hommes se font. J'essaye, par effet de remémoration et de redescription, de contraindre la langue à se dépouiller, de la déverrouiller et d'atteindre le degré zéro de la représentation, en la débarrassant de tout surplus de type cosmétique, une allure nouvelle, un nouveau caractère. Par le découpage, le texte d'origine, aussi plat soit-il, devient vert. S'agence ensuite une séquence de poèmes que l'on peut nommer récitatif. Pour Gaza d'ici là, je n'ai rien inventé des témoignages prélevés, tant du côté palestinien que du côté israélien, mais je les ai tous éprouvés. En me concentrant sur la grammaire et les effets de rythme, identification d'un danger, intervention, tempo, je parviens à percevoir ce qui me paraît comme constituant le juste écart. C'est cette distance à calculer qui m'importe, car témoigner ne peut pas être rendre compte rigoureusement. Quelque chose est toujours dit, et quelque chose est toujours dit à quelqu'un. Il faut réinventer la distance, disait Serge Danet. Ce serait la prise de position par excellence que de savoir aiguiser son œil de lecteur. Et les positions ne se prennent qu'à agencer un rythme. Manipuler de tels documents dans le sens du collage et du montage, s'attacher à relever de tels signes, c'est créer un devenir à partir de la mémoire quand le cours de l'expérience a chuté, quand l'histoire a été littéralement démontée, quand des témoins reviennent muets d'un champ de bataille, par exemple, ou quand, dans une situation de conflit extrême, les conditions de coercition et les formes de violence sont telles qu'elles rendent incapables de livrer le récit d'une expérience terrifiante, inimaginable. La forme du texte est ce qui permet justement, en reformant un langage, de rester vigilant face aux catastrophes qui s'annoncent, de toucher le réel au plus près. Et le réel, la honte d'être un homme, ils excèdent à Gaza, à Guantanamo, en Libye, etc. On va faire un autre tour de table.
Image numéro 9.
Image numéro 9.
Décor entreposé à Ghouta, près de Damas, où la population a été, selon l'opposition, bombardée à l'arme chimique. Photo du mercredi 21 août 2013, diffusée par le réseau syrien Sham News Network, proche de l'opposition, AFP. Faire la lumière, un projet destructeur. Gaz toxique, une détermination. Une détermination. Un crime indescriptible. Un crime indescriptible. Descriptible. Une mise en œuvre concrète. Information solide et corroborée. Ligne rouge, tension confessionnelle, réseau de la rébellion. Tuerie, bombardement, tuerie incessante, leadership, bombardement, leadership, aide non létale. Armes chimiques, leadership, aide non létale. Mot blanc.
Merci. Deuxième opération. Dupliquer, translater. Pour voir quelque chose, il faut donc commencer par le copier, le dupliquer. C'est dans la photocopie et la réécriture que soudain on voit quelque chose. S'engage alors une opération d'implémentation, c'est-à-dire l'activation de la fonction d'un objet selon un nouveau cadre, spécifiant et déterminant, opérant par effet de double translation, car il s'agit de considérer la poésie comme une traduction. La traduction du texte brut anglais en français, en l'occurrence pour Guantanamo ou pour Gaza, puis le transfert vers l'espace littéraire de la matière des témoignages prélevés comme une nouvelle présentation de problèmes publics. Le terme translation est particulièrement propice car, outre le fait qu'il existe dans la langue anglaise pour signifier la traduction, il appartient en premier lieu au registre des mathématiques. Il désigne une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement d'un objet, sans rotation ni déformation de cet objet. Je procède ainsi du dehors, en déplaçant, en dépassant et en dépossédant de leur ancrage antérieur, mais tout en les préservant, les données documentaires, data poésie, intransportables telles quelles, judiciaires pour Guantanamo, diplomatiques pour Gaza d'ici là, ou journalistiques pour État de fait, et île de Jean-Charles, afin d'aboutir à un texte qui relève, j'espère, au final du champ poétique. Toute question au demeurant se développe de façon vectorielle. La translation dissémine l'original. Elle permet, par effet de vectorisation, de créer des écarts et à s'augmenter de ces écarts dans sa propre langue, de changer et ajuster les vitesses, de briser les frontières entre les genres et les niveaux d'intervention. Si les énoncés restent intouchés d'un contexte à l'autre, les énonciations, elles, ont radicalement changé. Une telle migration induit de redonner du temps à la langue, de céder du terrain, en quelque sorte, et de faire émerger une nouvelle forme de savoir. Il faut que le langage agisse sur les faits de manière à les produire comme une réalité insaisissable. C'est une citation de Judith Butler. On n'a pas une langue, on est une langue. Tour de table.
Table 3. Des tanks de l'armée syrienne à l'entrée du quartier de Bab Amro à Homs, le 10 février 2012. Photo AFP. Géographie. Crise implicitement sans répit. Exaction à genoux, un assaut terrestre, 4e division du 1er corps d'armée. Au même moment, gazoduc et oléoduc, un poumon industriel, nettoyage par bloc, une révolte populaire, intervention étrangère, quartier rebelle, unité d'élite, sympathisant de la révolte, intense bombardement. Quartier limitrophe, émissaire spécial, porte-parole, cessez-le-feu humanitaire, source de sécurité, projet de résolution, une évacuation sûre et rapide, au ciel, centre d'aiguillage des armes, canalisation d'eau.
Merci. Troisième opération. Objectivé. Désirer écrire quelque chose qui ait pleinement les qualités de l'objet. Pris isolément, les propositions, les mots et les phrases sont sans doute aveugles, non éclairantes. Et comment s'y fier alors ? Mais par certaines possibilités de les combiner, par certaines articulations pour leur faire prendre position, des phrases composées à partir de ces mêmes mots ont la capacité de devenir des visibilités exactes. Dans une lettre du 13 mai 1871 à Georges Isambard, son professeur, Arthur Rimbaud affirme qu'il s'agit de trouver une langue pour être voyant, se faire voyant, se rendre voyant, afin de parvenir à ce qu'il nomme programmatiquement une poésie objective, en opposition à la poésie subjective qui sera toujours horriblement fadasse. J'ai été guidé dans cette approche par les poètes objectivistes pour lesquels la forme du poème est ce qui permet précisément l'objectivation du réel, c'est-à-dire l'enchaînement prolongé des actuels au plus rigoureux, et notamment Charles Reznikov. Je l'ai beaucoup lu après avoir assisté à un spectacle mis en scène par Claude Régis, une adaptation de Holocauste, l'un de ses textes fondateurs construit à partir des minutes du procès Eichmann à Jérusalem, est composé de micro-fictions agencées sériellement. Reznikov occupe une place discrète dans la littérature américaine du XXe siècle, recourant souvent à l'édition à compte d'auteur. Il a brièvement collaboré avec les poètes de The Objectivist Press, dont le projet était précisément l'inscription du poétique dans le récit du témoignage. Pas d'idée, sinon dans les choses. Pas d'idée, sinon dans les faits. Selon l'axiome de William Carlos Williams. Aucun mode de représentation ne doit dépasser qui n'aurait pas été inscrit dans les propos délivrés par des hommes et des femmes aux vies abandonnées, des vies qui n'ont pas été pleurées, des populations précaires qui ont vu et vécu l'horreur ou des paroles rapportées par ceux qui ont disparu. C'est Ezra Pound qui réussit à obtenir en février 1931 que Louis Zukovsky, alors totalement inconnu, soit invité comme éditeur et coordonne un numéro du prestigieux magazine Poetry. Le numéro paraît sous le titre Objectiviste 1931. Les deux maîtres mots de la doctrine objectiviste y sont alors définis, la sincérité et l'objectification. Une inclinaison en faveur du grain des choses et le désir d'un poème comme objet. On pourrait parler de poète photographe ou de poète cinématographe qui enregistre l'homme dans son écosystème séquence par séquence. Il s'agit de ne prétendre qu'à ce qui se trouve objectivement réalisé, dit pour sa part Francis Ponge. Cette conception de la poésie, bâtie selon des considérations éthiques et esthétiques, est une forme à elle seule d'éthologie. Charles Reznikov fait partie de ma réflexion sans que je le suive pour autant comme on épouserait une pensée sacrée. J'adapte son œuvre extraordinaire à de nouvelles fins, et c'est d'ailleurs sans doute l'un de ceux qui m'auront montré qu'il était possible de faire cet usage d'autres écrivains. Il me semble qu'une formulation plus appropriée à ce que nous nous devons d'explorer aujourd'hui, en 2014, serait celle que Charles Hodgson, dans son manifeste pour un vers projectif, appelle « objectisme », qui instruit la nécessité pour un texte de poésie d'être façonné d'une manière aussi brute qu'un morceau de bois quand on l'extrait de la forêt. L'objectisme, dit Hodgson, c'est se débarrasser de l'interférence lyrique, de l'individu en tant qu'ego, du sujet et de son âme, cette singulière présomption par laquelle l'homme occidental s'est interposé entre ce qu'il est en tant que créature de la nature et ces autres créations de la nature que l'on peut, sans être péjoratif, appeler objet. L'homme est en effet un objet lui-même, quel que soit l'avantage qu'il en tire, d'autant plus susceptible de se reconnaître en lui-même que ses avantages sont notables, en particulier au moment où il atteint une humilité suffisante pour en faire usage. Admettre ainsi qu'on ne peut pas remarquer l'aspect des choses parce qu'on les a toujours devant les yeux. Notre erreur consiste à chercher une explication là où nous devrions voir les faits comme la source d'un phénomène primitif, c'est-à-dire là où nous devrions dire simplement « tel jeu de langage est joué ». C'est une citation de Wittgenstein. La littérature doit être faite de phrases qui se donnent pour ce qu'elles sont. Nous devrions donc apprendre à croire à la simplicité. Tout se tient ouvert devant nous, dans son plus simple appareil. Et c'est une éthique, et c'est une politique, et c'est une raison d'être et d'agir. On pourrait appeler poésie ce qui est possible avant toute découverte et toute invention. Ne pas chercher à normaliser, codifier, purifier ou expliquer du langage quotidien, car le seul langage sensé est justement ce langage de tous les jours quand il est ôté de son usure. Ainsi donc, choisir de faire écho, se taire, écouter, choisir, recueillir, restituer l'écho, la réverbération logique, la réflexion, réciter. Rester apposé au réel, refuser toute manœuvre d'embellissement de la langue pour au contraire araser l'écriture. Cette tentative post-objectiviste que je tente de poursuivre à travers une série d'investigations menées pour élucider des événements catastrophiques contemporains, participerait ainsi de la poésie à la limite de la poésie. Un autre tour de table.
Table 2. Image de YouTube montrant des manifestants anti-Bachar al-Assad à Dara le 11 novembre 2011. Photo AFP. C'était faux, mais ça devient vrai. Sous-officier sunnite, ordre, gros trafiquant, officier, incursion, grenade, mazout, whisky, cigarette, barbu et masqué, l'aide de mon frère. Chute du leader de la nation arabe à coups de bâton. Les routes méritent à peine ce nom. Rébellion.
Merci. Quatrième opération, montée. Pour voir plus haut et plus large, je grimpe. Je monte sur la table et je crée des relations, je fais du montage. On pratique des montages en traversant des matières qui n'ont a priori pas de rapport. En connectant de tels hétérogènes, on découvre des analogies propices et fécondes dans les choses. On crée un savoir non balisé ni standard. Cela révèle un impensé. Cela se travaille, se construit, s'élabore, jusqu'à devenir un système dans l'élaboration de ce que Baudelaire appelait déjà la théorie des correspondances, afin de mettre au jour l'existence et le sens qui se dérobent à l'entendement et à la sensibilité de l'être humain. Un tel acte de juxtaposition permet d'accoupler des réalités dispersées, de recomposer des symboles. L'étymologie grecque du mot symbole désigne un objet coupé en deux, constituant un signe de reconnaissance pour les porteurs de chacun des morceaux rassemblés. La poésie a alors pour vocation de faire signe et sens, Baudelaire est ainsi le précurseur du symbolisme par ce saut dans l'inconnu évoqué dans les derniers vers du poème « Voyage ». Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre. Enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Monter, c'est mettre en relation les choses afin de pouvoir voir ces choses. Montrer, c'est rapprocher, attacher par des rapports au plus près. Le montage permet de voir ces choses au plus près et non plus de les expliciter, de les détériorer. On agence des documents selon un certain ordre pour qu'ils se dégagent une certaine manière de vivre. Entre deux pôles, un flux. Moi, ce que j'aime bien, dit Godard, à propos du montage, qui est toujours un montrage, c'est deux images ensemble pour qu'il y en ait une troisième, qui n'est pas une image, qui est ce qu'on en fait de deux images, exactement ce que fait la justice, enfin, ce qui est forcé de faire la justice en présentant l'attaque et la défense, et puis les jurés ou une certaine vérité. Une vérité, c'est fait d'un moment où c'est possible d'être. Prochain tour de table.
Des réfugiés dans un bus se dirigeant vers le camp de réfugiés à la frontière turque, à Yeldadagi, juin 2011. Photo Osman Orsal pour Reuters.
Lamentation. La vie dans les bois. Bribes d'informations, enclos de branchages, rumeurs. Sang dégoulinant, grappes d'hommes hurlant. Carte plastifiée, pick-up caotant. Piste défoncée, tapis criard. Groupes familiaux de défense. Le peuple est uni, uni, uni.
Merci. Cinquième opération, neutraliser. À quelle distance écrit-on ? Comment se tenir à la fois en contact et hors contact ? Le fait de voir, qui présuppose une réserve, une décision qui sépare, alimente un pouvoir d'éviter la confusion. Maurice Blanchot parle d'une manière de voir qui se ramène à, je cite, une sorte de touche quand voir est un contact à distance. Déplacer des choses, ne pas être totalement à l'intérieur, c'est essentiel. Et la question est de savoir comment on dispose aujourd'hui des outils permettant de s'émanciper des modèles anciens et d'inventer des formes d'autonomie. On est observateur, mais aussi acteur. On est pris dans un dispositif de pouvoir qui fait qu'on est positionné. On est censé toujours devoir intervenir, d'avoir une opinion. D'où la tentation de la position neutre, en surplomb, un autre biais, marginal, pour dénouer les chevaux des pratiques politiques catastrophiques. Si le neutre est, comme l'écrit Edmond Jabès, pure résistance, indifférence active, cet exercice a peut-être à voir avec le neutre, une pensée et une pratique du non-conflit. On retranscrit en versifiant, c'est tout, on ne se prononce pas. Tout discours est fait de propositions qui sont naturellement assertives. Chaque mot y est toujours flottant, non pertinent. Il y a une distinction à faire entre prendre position et prendre parti. Dans une prise de parti, on se sédentarise. On fonde son lieu, qui est le parti. On fait du surplace. Le neutre, lui, serait l'art d'esquiver les allégations et les mots d'ordre. Reznikov demandait au poète, ramené à une simple position, de se contenter de donner à voir, à la manière d'un témoin devant un tribunal, sans chercher à influencer le jugement ou l'émotion du lecteur. Même si l'exigence d'exposer les faits ne peut être détachée de leur stylisation, il parvenait à mettre en place un tel espace neutre. Choisir son camp est insuffisant. En se désimpliquant personnellement, on se constitue des avis qui sont aussi des positions de pouvoir. On ménage un écart sans lequel aucun éclaircissement ne saurait être possible. Bien sûr, la notion de neutre est enfermée dans une image dépréciative. Il ne s'agit pas de s'opposer à cet état de fait, mais de dériver en déplaçant le paradigme. Car il y a une vitalité du neutre. il joue sur le tranchant du couteau, dans le vouloir vivre, mais hors du vouloir saisir, dit Roland Barthes. Il procède par effet de tirage, dans sa référence photographique, mais plus encore, tirer parti, tirer à vue, tirer d'embarras, du fond des gestes noirs. J'ajoute une façon d'être présent aux luttes du temps, de produire un reste en ligne de compte, de répliquer. C'est une espèce de coupure, en somme, qui coupe la ligne elle-même, quelque chose qui reste ou résiste face aux injonctions majoritaires et dominantes, souveraines, guerrières. Moduler ce qui fait échec en résistant, en restant. Résister, rester, c'est la même racine. N'entrevoir qu'un procédé d'écriture dans cette façon de conduire un texte, ce serait mésestimer sa dimension autrement humaine et politique, car prendre connaissance, c'est déjà affirmer, et affirmer, c'est trancher. On ne peut exprimer une pensée qu'à l'issue d'un exercice de dépersonnalisation, une fois accomplie une sorte de conversion subjective à rebours, conçue comme un retournement de la conscience de soi. Pour parler non sûr, mais avec, pour parler non sûr, mais pour parler non pour, mais à l'intention d'eux. À l'intention du peuple en larmes. C'est une expression de Georges Lieberman. Le peuple en larmes inconcerté, pris au piège, exposé à la crainte de la destruction, quand il ne peut plus vivre ou même survivre, figé dans le mal que l'homme sait faire à l'homme, quand l'homme force l'homme à l'ignominité, quand l'homme voue son semblable à l'enfermement, quand l'homme fait subir à son semblable la souffrance de l'extradition ou bien la répression militaire. Or, pour tout dire cela, il faut aussi un langage, une logique, une analyse, s'engager dans des actes de lecture et de savoir. Montrer l'horreur dans ses implications précises et la profondeur des actes, sans pour autant donner de leçons. Allégé du pouvoir de dire « je », transformant sa nature en tant qu'auteur, le seul intérêt d'apposer une signature au bas de tel livre, alors, c'est poser un doute, c'est pointer une exactitude négative, une incertitude inquiète, insurmontable. Prochain tour de table.
Table 6. Des combattants de l'armée syrienne libres à Alep le 14 août 2012. Mini bouteille de jus de fruits Spot, fleurs artificielles, un mouchoir de poche au noir, théâtre d'ombre, l'allure d'une tortue, signature du désastre.
Pension de charme, escarpins dorés, balustrade en fer forgé, quartier dévasté. Sel et nitrate, où je suis née. De l'aube au coucher du soleil, une percée, un grondement sourd à l'aveuglette, rafale et mélopée, traque, phalloge, mortier.
Merci. Opération numéro 6, désubjectiver, dépersonnaliser. Comment dire quelque chose sans dire autre chose que ce quelque chose? Face à un tel tremblement, il s'agit de rompre, de disparaître, se débarrasser impossiblement de son identité, de son visage. N'en avoir plus de visage. N'est-ce pas cela le vœu de la poésie? Ne me demandez pas qui je suis, j'ai retiré tous les masques. Devenir inconnu, minimiser la fonction auteur en traître à l'écriture. L'individu est le produit du pouvoir. Ce qu'il faut, c'est s'en débarrasser par la multiplication et les déplacements d'agencements textuels mobiles. Le groupe ne doit pas être le lien organique qui unit des individus hiérarchisés, mais un constant générateur de désindividualisation. C'est ce que Fitzgerald appelait la vraie rupture, dit Gilles Deleuze, la ligne de fuite, non pas le voyage dans les mers du Sud, mais l'acquisition d'une clandestinité. Être enfin inconnu, comme peu de gens le sont, c'est cela trahir. Écrire, trahir, en abolissant la forme primitivement stratifiée et assujettie de la subjectivation, par dislocation, décentrement. Je est un jet, un lancer, notre complexe intérieur déjà dans la projection. Je ne peux pas dire toi, Toi ne peux pas dire je. Toi est séparé de je, et pourtant il faut bien qu'il le dise. Cela s'accomplit alors dans la corrélation du je fêlé avec le moi dissous. Ce ne sont pas les deux premières personnes qui servent de condition à la production d'énoncés littéraires. La littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit de l'habitude de projeter un moi, du pouvoir de dire je. Il s'agit de se déposséder soi-même par intériorisation du dehors, se vivre comme un fleuve de flux, en se laissant déterritorialiser par l'intensité de l'événement pur, en se souvenant que, je cite, « toute vie est bien entendu un processus de démolition ». Alors, on dit « on ». Même pas nous, on dit « on ». Il n'y a pas de littérature sans fabulation, mais comme Bergson nous aide à le voir, la fabulation, la fonction fabulatrice, ne consiste pas à imaginer ni à projeter un moi. Elle atteint plutôt à des visions. Elle s'élève jusqu'à ses devenirs ou puissances, à des visibilités. Écrire égale créer le monde extérieur, ne plus être soi-même, disparaître du milieu de vous. Non pas en arriver au point où on ne dit plus « je », mais au point où ça n'a plus d'importance de dire ou de ne pas dire « je », dit Deleuze. Dans sa lettre à un critique sévère de 72, Deleuze écrit encore « Dire quelque chose en son nom propre, c'est très curieux, car ce n'est pas du tout au moment où l'on se prend pour un moi, une personne ou un sujet, qu'on parle en son nom. Au contraire, un individu acquiert un véritable nom propre à l'issue du plus sévère exercice de dépersonnalisation, quand il s'ouvre aux multiplicités qui le traversent de part en part, aux intensités que le parcourent. Il ne suffit pas de donner son opinion pour dire ce qu'on pense. Les pensées qui nous hantent et nous traversent sont plus secrètes et d'amour à nous-mêmes. Quant à nos opinions, comment peut-on croire qu'elles nous appartiennent en quelque façon, elles dont la fabrique organisée échappe entièrement aux capacités individuelles de chacun ? Deleuze ne cessera de soutenir avec la plus grande fermeté une différence de nature et de valeur entre ces deux facultés humaines, exprimer une pensée et dire son opinion. Il s'agit en somme, selon la formule de Foucault, de se déprendre de soi. Même la prononciation du nom peut intervenir comme la forme la plus extraordinaire de reconnaissance, particulièrement quand on est devenu un sans-nom, ou lorsque notre propre nom a été remplacé par un chiffre, ou lorsque plus personne ne s'adresse à nous, remarque Judith Butler. Donc enclencher le processus poétique comme catalyseur de la déprise de soi, se dissocier de soi et atteindre peut-être à ce que Eden White appelle la catégorie des voix moyennes qui rend compte de l'équivocité d'un sujet dont le statut est à la fois actif et passif. Une voix non plus vocale mais détimbrée, une figure de voix, une voix, des voix, on. Nouveau tour de table.
Table 10, coucher de soleil sur Damas, en 2005. Une pensée, un piège, un noyau dur, une pourriture, un ressort increvable, oxygène, une chose immonde, une question abyssale, les millions de visages, une scène internationale, un non-sens, une vermine, des bandes mafieuses, des bourreaux, la barbarie des uns ou des autres, une association dégénérée de conflits et d'intérêts, le pays du mal, halte à la confusion, tous méchants, incapables d'humanité, plus jamais ça, rivaliser, un degré d'impuissance, un laisser-tomber, gagner du temps, effroi et compassion, un peuple syrien, de puissants partenaires, don de soi et d'amour, une étoffe universelle et dégradable, un espoir dans le cauchemar.
Merci. Alors là, c'est la sixième opération bis. J'ai une rallonge à ma table et c'est une rallonge sur le « on ». « On » est invisible et parle de tout le monde à tout le monde. Il écarte de l'indignité de parler pour les autres. on implique nommer les puissances impersonnelles. Je n'essaye pas de parler pour les prisonniers de Guantanamo, pour les habitants de la bande de Gaza, pour les rebelles opposés au régime de Kadhafi, pour les migrants qui tentent de rejoindre Lampedusa, mais de tracer une transversale, une diagonale qui irait d'eux à moi, jusqu'à élever leurs propos, leurs témoignages à une figure de voix, donc en une polyphonie de foule, comme un chant des chants individués. Autant d'actions sur des actions, autant de modes d'exister, de possibilités de vivre, pas des personnes ou des identités. On implique une cohérence au long cours. Je dois la notion de cohérence à Jean-Philippe Cazier, qui m'a donné ce mot, et je lui rends ce soir, cohérence, avec deux R, E-2-R-A-N-C-E. On implique une loi invisible et un prononcé de coexistence. Tout n'est jamais dit. Il ne s'agit pas de faire parler le mutisme qui entoure les sans-paroles, ni de retrouver tout ce qui en eux et à côté d'eux s'est tu ou a été réduit au silence. Il ne s'agit pas non plus d'étudier les obstacles qui ont empêché telle découverte, retenu telle formulation, refoulé telle forme d'énonciation, telle signification inconsciente ou telle rationalité en devenir, mais de définir un système cohérent de présence. On dit cela. On répartit les lacunes, les creux, les vides, les absences, les limites, les découpes. On est pronom indéfini qui tient de son origine substantivale la spécificité de son fonctionnement. On est issu du nominatif latin homo, tandis que homme est issu du cas régime hominem. Par abstraction, le substantif s'est vidé de son contenu de grande extensité, celui d'être humain, auquel s'est substituée une pure forme de pensée, celle d'agent indéterminé. On est employé exclusivement comme nominal et n'est jamais pronom représentant, contrairement à il. On peut avoir un caractère distributif. On peut aussi suggérer une collectivité indéterminée dont le nombre peut varier. On, une entreprise de liquidation de l'individu. Dès lors, ce « on » extensible dans l'espace et dans le temps définit la personne au-delà d'elle-même, qui la transcende en tant qu'élément mal identifié d'un groupe ou d'un contenant au contour mal dessiné dans un temps indéterminé. Réserve. Mais « on » est aussi l'absence de voix responsable, l'absence de responsabilité à tous les niveaux. L'emploi du « on » permet à l'énonciateur de ne pas forcément prendre en charge son énoncé. « On » est l'impossible émergence du sujet. On dit que je ne suis pas le foyer constant d'où je dis. On propulse des rayons neutres, la profondeur sans vue et qui voit, on parle, on meurt, oui, et il y a des sujets. Ce sont des grains déviés et dansants dans la poussière du visible et autant d'entités mobiles au cœur d'un murmure anonyme en une polyphonie de foule. N'importe qui parle, mais ce qu'il dit, ce qu'on dit, on ne dit pas de n'importe où, ni n'importe comment, ni à n'importe qui. On est pris nécessairement dans le jeu d'une extraterritorialité. On est plus grand que lui. On est plus grand que on. Prochain tour de table.
Table 4. Des combattants de l'armée syrienne libre à Azaz, dans la province d'Alep, le 17 juillet 2012, photo Stringer Reuters. Nous sommes une seule main, nous sommes une seule main, un blocus, nous sommes une seule main, un blocus sous le feu, dans l'angoisse, pistolet russe, nous sommes une seule main, nous sommes une seule main. Nous sommes une seule main, volcan de Damas et séisme de Syrie. Nous sommes une seule main. Nous sommes une seule main, assassin d'assassin. Nous sommes une seule main, Skype. Nous sommes une seule main. Nous sommes une seule main.
Merci. Septième opération sur 9. Désexprimer, désécrire. Le rapport de l'homme contemporain lui-même est cassé. Et le plus simple n'a pas encore été dit. Mon intention est de renverser avec mes propres petits outils les expériences de perte en monde que l'on vit aujourd'hui. Ces moments où s'impose l'idée que penser n'est plus possible, que le réel ne répond plus à aucune de nos attentes, comme des effets de dépossession où l'homme semble séparé de ce qu'il peut. Je mise en faveur d'un rapport direct et ouvert avec l'actualité historique et politique depuis le poétique. Comme si pour comprendre notre propre passé, il fallait savoir reconfigurer le présent par un remontage anachronique fondant sur l'autrefois son propre souci quant à l'avenir, ce savoir particulier inhérent à l'acte de sentir le danger. C'est une citation de Georges Didier Huberman encore. Il s'agit, dans une mise en questionnement continue, d'atteindre à une colère, une insurrection politique face aux violences qui sévissent de toutes parts dans le monde actuel. Il y a un déni de la violence comme de la perte qui doit être perpétuellement mise au jour et combattue. Le danger serait de vouloir révéler ce que l'on ne peut pas dire, justement, donner des mots à ce qui n'en a pas. Je propose d'inverser le processus, non pas approcher l'innommable, mais fonder les voies devant ce qui nous laisse sans voix. Par multiplication, dépossession et déplacement, inexprimé, désexprimé, ce qui est déjà dit dans la surproduction des choses écrites, déjà vues ou connues, déclarées, nommées, rapportées. Une installation dans la nasse du langage pour le dégraisser, le rendre à sa simplicité signifiante et questionnante, vers le moins. C'est la structure verbale elle-même qui vient donner aux événements historiques non seulement leur signification, mais aussi leur statut d'événement réel. Même si l'exigence d'exposer les faits ne peut être retranchée des effets de stylisation, et même si forme plus fond égale 1. Voir, donc, pour savoir, savoir pour prévoir, et prévoir pour voir venir. Prochain tour de table.
Donc c'est la table 5. Une photo publiée par l'agence syrienne d'information, SANA, montre les dégâts causés par un attentat à la bombe le 28 novembre 2012 dans la banlieue de Damas. Photo AFP. Modus operandi, tournée d'inspection, couverture d'anonymat, voiture piégée, chasseur bombardier, insurgé, simultanéité d'explosion. Terminologie officielle, risques et débordements, une défection contre-pouvoir. Troupes de régime, bastions rebelles, attentats doubles, missiles solaires. Lambeaux de chair humaine, panache de fumée, restes de corps non identifiés, contre-pouvoir.
Merci. Septième opération. Chercher, trouver. Selon Rimbaud, la mission du poète est de trouver une langue. La poésie serait le laboratoire d'un langage pleinement moderne et le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Écrire veut dire trouver une phrase. Or, trouver implique chercher. Écrire veut dire chercher, donc trouver une phrase. Une nouvelle phrase est possible dans la mesure même où elle est effectivement recherchée puis trouvée. Trouver donc chercher, chercher puis trouver. On ne peut trouver une phrase qu'au moyen d'autres phrases. Écrire veut dire trouver une phrase au seul moyen d'autres phrases. Écrire veut dire chercher donc trouver une phrase au seul moyen d'autres phrases. Chercher une phrase dans d'autres phrases. Chercher une phrase dans la langue naturelle des phrases. Chercher une phrase puis trouver une phrase. Donc chercher une langue, puis trouver une langue. Mais ne rien lâcher, ne pas s'arrêter aux phrases usées qui se présentent dans le magma des phrases. Trouver une langue en inventant des phrases non usées au moyen d'autres phrases. On peut toujours choisir de ne rien dire plutôt que de le dire à moitié. Ne rien lâcher. À cette seule condition, une phrase nouvelle paraît dans sa nécessité. Écrire, c'est chercher à trouver une phrase nouvelle dans d'autres phrases, c'est-à-dire en taillant dans le lexique général un lexique nouveau à partir de nouvelles formes grammaticales dont le système circulatoire qu'est la phrase a trouvé dans la masse des phrases, avec ce qu'il y a de rythmique dans le sens. Chercher trouver sa langue en faisant divaguer la langue pour dire cela, la détermination des faits et la valeur qu'on leur accorde. Se mettre en quête d'un langage qui laisse voir nettement les objets, susceptibles d'être élevés à la hauteur d'une rigueur quasi objective. Dire ce qui est, et ainsi lutter contre toute dénégation, tout effacement de la phrase pas encore usée. Et aussi prendre position contre toute exploitation, tout dévoiement des faits, et aussi affronter une responsabilité. Trouver une langue, cela semble ainsi passer par une désappropriation privée et singulière du lexique et de la syntaxe. Chercher trouver égale reconventionner la poésie dans sa reconception via un ensemble d'opérations, déplacement, extraction, objectivation, montage, prolifération, juxtaposition, disjonction, élucidation, simplification, désaffublement. Trouver une langue, donc redisposer ce qui nous sous nos yeux et qu'on ignore en l'état d'association et d'enchaînement donné, ou qui telle qu'elle nous laisse sans voix. Donc redisposer les phrases très phrases, les désamorcer, leur attribuer une voix sans voix. Au bout du compte, il n'y a pas à chercher à trouver une langue, on n'a pas de langue. Essayer de trouver une langue, c'est se perdre. La page prend corps, on ne trouve pas de langue, on est donc sans langue. Il, elle, n'a pas de langue. Il, elle, qui cherche sa langue, on cherche sa langue. De la langue qui parle en leur langue, va hors de lui ou d'elle. On trouve une langue en leur langue, sans voix. Non pas chercher, trouver, mais créer, car la vérité n'est chose qui serait à trouver et à découvrir. Écrire, c'est penser créer. C'est d'abord engendrer penser dans la pensée. La production de la vérité passe par une série d'opérations qui consistent à travailler une manière de langue. En fin de compte, on produit une langue impersonnelle, une langue de personne. Le rapport au terrain a changé. Ma liaison s'est objectivée. J'étale les choses. Je mets la vie à plat, sans commentaire. Dit Dominique Fourcade dans Rose des clics 2. Chercher à trouver une langue, c'est apprendre à désécrire. C'est finir par désarmer les phrases et les mots. C'est finir par désécrire. Trouver une autre phrase. On écrit désécrire. On écrit égale on désécrit. On désécrit, on finit par écrire. Prochain tour de table.
Table 7, à Alep, dans le nord du pays, le 11 mars 2013. Ces cadavres ont été trouvés dans une rivière non loin de la ville, AFP. Arrière-pensée, nature de régime, contre-pouvoir, une marge de manœuvre, insurrection, gilet pare-balles, armes chimiques, jusqu'à présent, aggravation, perte de vitesse, guerre asymétrique, une libération, population civile, émetteur radio.
Merci. Neuvième opération, ouvrir. Le this-is-ness. Le this-is-ness, c'est la singularité de chacun, le point de l'incompressible, le réel de notre singularité quelconque, ce qui fait qu'on est un, à un endroit, en un temps donné, en un seul et même sens, ce quelqu'un-là. Chaque individu est une question posée. Avec le vertige qu'elle fait trembler, cette question, et parallèlement, la puissance d'agir qu'elle induit. Même la prononciation du nom peut intervenir comme la forme la plus extraordinaire de reconnaissance, particulièrement quand on est devenu un sans-nom, ou lorsque notre propre nom a été remplacé par un chiffre, une immatriculation, ou lorsque plus personne ne s'adresse à vous. Il revient à chacun, dit encore Georges Didier Huberman, de penser l'histoire dans les termes où elle agirait comme un avertisseur d'incendie. Il faut couper la mèche qui brûle avant que l'étincelle n'atteigne la dynamite. C'est une citation de Walter Benjamin. C'est peut-être déjà ce que j'aurais essayé d'aborder avec ces quelques livres, prendre en réparation le monde et poser la question de l'humain, de l'irréductible humain dans l'homme quand les hommes se contraignent à ne plus être des hommes. Je ne veux pas dire que c'est toujours le dernier qui parle, qui a raison, mais ce qui guide, c'est ce dernier-là, celui qui ouvre la porte sur quelque chose d'immédiat, d'indécidable, pour voir ce qui va venir. Le poème en acte, dépourvu d'accentuation poétique, est au présent l'absence de réponse. Une tension ouverte par un défaut, un suspense, un suspens de réponse. Écrire des livres, c'est maintenir en œuvre la vie possible et la question ouverte. Avant-dernier tour de table, si j'ai bien compté.
Bachar al-Assad et sa femme Asma votant à Damas le 3 juin 2014. Photo Sana Sana, Reuters. Une cour constitutionnelle, offensive d'envergure, un sentiment national, 9 millions de personnes, une non-élection, arme automatique.
Joie et enthousiasme, force et peur, logique de terreur, une élection présidentielle, nouveau mandat, un chef d'État de fiction, une mascarade, une tragicomédie, une guerre totale, à n'importe quel prix.
Merci. Le monde et tout ce qui a lieu. Le monde et tout ce qui a lieu. Le monde et tout ce qui a lieu. Dernier tour de table.
C'est la table numéro 8. L'armée régulière à la recherche de rebelles près du village de Dara Abd Rabo, dans la région d'Alep, le 26 mai 2013. Photo Georges Oufalian, Reuters. Force de répression, main tendue vers le ciel, des fuyards, terre glissante, exode.
Groupe familier des défenses, un moment crucial, guerre d'influence, massacre, déserteur, un fiasco, nuage de poussière, trace des passages.
On a épuisé toutes les tables, je pense. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et puis, merci surtout pour votre écoute sur un texte, d'un texte qui est voilà, en cours. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Voilà. Bonne soirée. Alors, je dois préciser qu'en fait, pour être très précis, donc parallèlement à la lecture, vous avez manipulé des séquences de mots en lien à des images. Donc ça, c'est un projet de livre que je suis en train de construire. Donc c'est d'essayer de parcourir tout l'épisode du conflit en Syrie. La particularité, ce qui se passe en ce moment en Irak, c'est qu'il y a très peu de photographes. Et donc on retrouve les mêmes dans les journaux, dans la presse. On retrouve évidemment tout le temps les mêmes photographies, mais avec des commentaires, des reportages, des analyses différentes, évidemment. Et donc, pour chaque photographie, j'ai rassemblé différents types d'articles qui s'y réfèrent tous. Et j'ai sélectionné donc des mots ou des expressions, et ce sont celles et ceux que vous avez eu à disposition pour les agencer. Et donc j'ai constitué 12 tables, et c'est en fait le résultat, enfin ma proposition est concurrente à la vôtre, et résulte dans ces petits cahiers qui circulent.
Je voulais dire qu'on a des micros ici, donc si, si vous avez envie de réagir à la proposition de Franck, on peut le faire. Moi, ça m'intéressait peut-être, au moins pour lancer cet échange, d'interroger, tu viens d'en parler à l'instant, mais ton rapport à l'image, puisque tu as un travail littéraire qui est quand même un travail de production d'image, mais plutôt d'image mentale. Là, dans la proposition que tu nous fais, il y a cette espèce de relation un peu différente, qui est une espèce de tautologie, mais pas tout à fait, en fait, une espèce de rapport concomitant entre ce rapport fragmentaire du texte et puis évidemment l'image qui elle-même est en quelque sorte fragmentaire parce que à la fois tu fais lire son contexte un peu objectif, mais on voit bien que l'image glisse toujours de ce qu'elle, de comment on la nomme. Voilà cette espèce de rapport, en tout cas entre la entre l'image et le texte. Comment ça travaille dans ton
C'est très précis, c'est que là en l'occurrence c'est directement lié à un livre qu'on connaît peu, malheureusement. Il est épuisé en français. C'est un livre de Bertolt Brecht qui s'appelle « L'ABC de la guerre » et qu'il a publié dans les années 50 et qu'il a fait d'ailleurs dans les années 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il était en exil à Los Angeles. Et en fait, il a réuni différentes coupures de presse et donc il découpait beaucoup la presse concernant les années de guerre, et sur chacune, à chaque photographie, il a écrit ce qu'il appelle des épigrammes, donc qui renouent donc avec une tradition poétique funéraire, puisque les épigrammes, c'est ce qu'on met, sont des éloges funèbres en fait. Et donc il y a une série de photographies qui ont été sélectionnées, découpées dans la presse, à partir de laquelle il écrit donc une suite d'épigrammes, donc ces quatre vers qui sont rimés en plus et qui viennent comme ça en complément de la photo. Et c'est un livre vraiment magnifique. Et voilà, l'idée vient de là en fait. Je me suis demandé comment essayer de prolonger. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais oui, suivre ce fil-là, en tout cas.
Après, il y a quand même une deuxième chose dans le régime d'apparition de ces images, c'est qu'on pourrait dire que, encore plus qu'au moment de Brecht avec la presse, elles ont un caractère surgissant. Donc, comment t'as travaillé ta sélection d'images? Parce qu'il y a ce que j'appelle avec Internet de l'image non désirée. Bon, ici, on travaille avec l'image, et donc il y a cette espèce de nouveauté qu'il y a, c'est cette image non désirée qui vient nous solliciter. Bon,
pour être très précis, puis aussi, pas honnête, mais je ne peux pas ne pas dire que j'ai vécu 2 ans en Syrie, donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Il y a d'autres personnes dans la salle dont c'est le cas également. Donc c'est aussi un travail là-dessus, c'est comment faire quelque chose à partir d'une situation, un contexte qui touche. Alors bon, on ne peut pas mettre ça de côté, mais je le dis, c'est une information évidemment importante. Après, j'ai essayé de construire une suite, une sorte d'album en fait, hein, si on peut dire ça, d'images qui sont à tempo régulier dans la chronologie du conflit. Et je n'ai pas tant choisi les images qu'aussi les articles qui étaient associés à ces images. Donc là, c'est le tri que j'ai fait en évaluant à la fois le poids de l'image et puis le poids des mots de l'autre côté qui lui était lié.
Mais à la guerre, tu n'interviens pas sur l'image comme tu vas intervenir sur le texte. Comment tu nous proposes
Non, j'avais un moment où je m'étais dit je pouvais pointer des enfin, mais bon, je préfère prendre l'image brute telle qu'elle est. C'est des images qui ont traîné partout, qui sont pas forcément esthétiques. Ça m'intéressait, c'est un matériel vulgaire, disons. C'est jamais très gai en fait quand je fais des trucs. Je suis désolé. Mais
c'était ma remarque suivante. Je voulais dire bon, écoute, c'est samedi soir quand même, Franck.
En plus, c'est samedi soir, il fait beau dehors, donc allons prendre un verre.
On continue comme ça ensemble dehors. Merci à vous tous, en tout cas. Merci.